Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Plus d'1 300 000 personnes souffrent aujourd'hui d'autisme en France et pourtant on est encore très loin du compte pour faciliter la vie de ces enfants et de ces adultes. Une marche était organisée hier à Paris. Nous entendrons une maman qui désespère du système français. Au Brésil, Jair Bolsonaro a finalement obtenu l'autorisation de la cour d'appel pour commémorer l'anniversaire du coup d'État de 1964 qui avait plongé le pays dans la dictature pendant 21 ans. Quel est l'intérêt politique du président d'extrême droite dans cette commémoration? Dans ce journal, l'analyse d'Armel Anders, historienne du Brésil contemporain. Et puis la candidate tête de liste de La République En Marche, Nathalie Loiseau, a tenu hier son premier meeting de campagne. C'était à Aubervilliers. Compte rendu à suivre, signé Rosalie Lafarge dans un instant. Une femme est désormais présidente de la Slovaquie. Elle s'appelle Susana Čaputová. Une large victoire au premier tour hier avec plus de 58% des voix contre le candidat du parti au pouvoir. Les Slovaques ont donc montré dans les urnes qu'ils aspiraient au changement un an après l'assassinat d'un journaliste d'investigation qui avait profondément marqué le pays. Notre correspondant à Bratislava, Alexis Rosenzweig, était au QG de la nouvelle présidente à l'annonce de sa victoire.
Ambiance de fête samedi soir dans le vieux marché couvert du centre de Bratislava. Les résultats quasiment définitifs donnent Susana Čaputová largement en tête lorsqu'elle prend la parole.
Nous pensions peut-être que la décence en politique était un signe de faiblesse, mais nous voyons aujourd'hui qu'elle est l'expression de la force. Il est possible de ne pas céder au populisme et de convaincre sans discours agressifs ni attaques sous la ceinture.
« 45 ans, cheveux longs et voix posée, l'avocate pro-européenne Susana Čaputová s'était présentée comme la candidate du bien contre le mal, contre la corruption en particulier. C'est l'assassinat l'année dernière d'un journaliste d'investigation qui l'avait poussé à se lancer en politique pour la Slovaquie progressiste, un nouveau parti fondé par Ivo Štefunko.
Elle était vraiment la personne qui représente ce combat pour l'état du droit et de la justice.
La fonction présidentielle est surtout protocolaire en Slovaquie, mais Susana Čaputová pourra notamment valider ou non la nomination des ministres et des juges. Sa cohabitation avec le parti au pouvoir du très pugnace Robert Fico s'annonce comme un véritable baptême du feu politique, d'autant que le pays se prépare déjà à 2 autres élections, d'abord européennes, puis législatives.
Alexis Rosenzweig, le correspondant de France Culture à Bratislava. En Ukraine aussi, un candidat anti-corruption est favori pour l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui le premier tour du scrutin. Dans un climat tendu, les bureaux de vote viennent d'ouvrir. En tête dans les sondages, Volodymyr Zelensky, un comédien de 41 ans. On y reviendra dans le prochain journal à 10h sur France Culture. Au Brésil, la commémoration du coup d'État de 1964 qui a plongé le pays dans 21 ans de dictature a finalement été autorisée par la cour d'appel du pays hier en fin d'après-midi. Une juge de Bratislava avait pourtant interdit cet hommage dans les casernes au titre de l'argument qu'il était contraire à la Constitution le matin. Le soir, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a donc obtenu ce qu'il souhaitait, tenir cette commémoration. Mais pourquoi tient-il tant à cet événement? Mathilde Mélin a posé la question à Armel Anders, historienne du Brésil contemporain et professeure à l'université Paris 8.
C'est à la fois dans la tradition de Bolsonaro lui-même. Il a toujours exalté la dictature militaire et dans son aspect le plus dur, dans la répression et la torture. Mais il s'agit peut-être d'un coup pour mobiliser la frange la plus dure qui est autour de lui, de son clan, dans la guerre ouverte entre les différents pouvoirs de la République, c'est-à-dire le pouvoir du président et puis le Congrès national d'un côté et aussi la justice de l'autre, enfin en tout cas la Cour suprême, hein, la justice aussi ayant fermement condamné la célébration du coup d'État militaire de 64. C'est pas un nostalgique hein, de la dictature militaire, c'est beaucoup plus grave que ça. Bolsonaro est un continuateur. Pour lui, la dictature militaire n'a pas fini le travail. Son amour de la dictature, c'est pas seulement un projet politique ou dire la dictature a permis le miracle économique brésilien, par exemple. C'est ce qui était bon dans la dictature, c'était la répression, la torture et les exécutions. Même parmi les militaires, hein, la vie est beaucoup plus mesurée. Ce qui peut rallier une partie des militaires, c'est des intérêts corporatistes et qu'ils soient fortement épargnés, ce qui a l'air d'être le cas par la réforme des retraites, hein, dont ils sont de grands bénéficiaires. Mais autrement, y a beaucoup de militaires qui sont quand même très inquiets de la tournure absurde que prend ce gouvernement et qui n'ont pas envie que l'institution militaire soit associée à un désastre complet. Hein. Là, on est quand même dans une situation de crise politique et d'absence de gouvernement qui est très préoccupante.
Armelle Anders, historienne du Brésil contemporain, répondait à Mathilde Mélin. En Amérique centrale, au Nicaragua, qui lui aussi a connu la dictature, la situation est encore extrêmement tendue. Un homme a ouvert le feu et blessé trois opposants hier dans la capitale Managua pendant une manifestation contre le président Daniel Ortega. Une visite très symbolique du pape François au Maroc pour le deuxième voyage d'affilée du souverain pontife dans un pays musulman après les Émirats arabes unis le mois dernier. D'une même voix avec le roi du Maroc Mohamed VI, ils ont condamné toute forme d'extrémisme religieux et ils ont prôné la coexistence pacifique entre les religions, y compris en Terre Sainte à Jérusalem. À Rabat, notre envoyé spécial Mathilde Imberti.
Au Maroc, le pape François vient défendre la coexistence pacifique entre les religions. Le roi Mohamed VI lui prône un islam modéré et ouvert. En guise d'illustration, il ouvre à son illustre visiteur les portes d'un centre de formation pour imams. 1300 musulmans y suivent un cursus théologique dont un jeune français, Aboubakar Midouche. Sa vocation s'est renforcée suite aux attentats.
En 2015, mon pays a été victime d'actes horribles commis par des criminels prétendant agir au nom de l'islam. Bien sûr, je savais que ces crimes allaient à l'encontre de la religion. Mais j'ai pris conscience qu'il fallait que des voix s'élèvent, que des hommes et des femmes s'engagent, s'unissent et agissent contre cette idéologie de la mort. Mais pour être efficace au sein d'une société formatée par des courants multiples et parfois par des idées toutes faites, il fallait acquérir des connaissances et un savoir communiqué.
Dans le centre musulman s'élève une incantation à trois voix, un Ave Maria mêlé à une prière soufie et un chant juif, le dialogue interreligieux mis en musique. Manifestement ému, le pape applaudit longuement. À propos de coexistence pacifique, il a signé au Maroc une déclaration commune avec Mohamed VI sur Jérusalem, appelant à préserver la ville sainte comme patrimoine commun des trois religions monothéistes et à en garantir l'accès à tous les fidèles.
En France, la marche de l'espoir pour vaincre l'autisme a réuni près de 300 personnes hier sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. L'autisme touche 1 300 000 personnes en France. Hélène est maman d'une jeune adulte autiste et les perspectives d'avenir pour sa fille en France la désespèrent.
La France accuse un retard qui est une honte. Moi, je vois à l'étranger de gens comme ma fille qui sont dans l'emploi, qui habitent chez eux, qui savent faire des choix, décider quel film ils ont envie d'aller voir avec leurs amis, etc. C'est ce que je souhaite pour ma fille. Je ne suis pas certaine que ce soit raisonnable de rester vivre en France pour elle. Quand on imagine aujourd'hui qu'en France, c'est un pourcentage infime de personnes avec autisme qui sont dans l'emploi, alors que la très grande majorité sont tout à fait capables de faire des choses et de travailler, de gagner leur vie, etc. À hauteur de leurs possibilités. Ma fille, elle, pour étudier, pour apprendre, elle ne pourra jamais, a priori, suivre un cours magistral à la Sorbonne. Eh bien, on peut vivre sans suivre un cours magistral à la Sorbonne, ce n'est pas gravissime. Elle ne fera pas du conseil en stratégie. Il y a plein d'autres métiers qu'on peut faire. Elle est passionnée de cuisine et elle peut très bien. Il y a un tas de restaurants, de lieux qui se créent où il y a des gens qui font de la cuisine et ça fonctionne super bien. Et donc, ce n'est plus possible qu'on doive justifier simplement le fait que les personnes avec autisme ont un droit total à la dignité humaine de la même façon que tout le monde.
Au micro France Culture de Bastien Roch. Nous partons maintenant à Aubervilliers où s'est tenu hier le premier meeting de campagne de la tête de liste de La République En Marche, Nathalie Loiseau. Premier meeting pour lancer cette conquête donc des élections européennes. C'est un reportage de Rosalie Lafarge.
Sur le fond, tout le monde veut croire en sa maîtrise des dossiers européens. Mais sur la forme, la candidate elle-même semble reconnaître quelques faiblesses.
C'est vrai, nous ne ressemblons pas vraiment à ces hommes et à ces femmes politiques qui prennent la politique pour un spectacle, pour un cirque dont ils sont devenus les bêtes de foire.
Et pourtant, pendant plus d'une demi-heure, Nathalie Loiseau cogne sur ses adversaires, enchaîne les petites phrases, les punchlines, comme on dit.
Ce qui nous réunit, c'est que nous n'avons pas l'Europe honteuse, nous n'avons pas l'Europe hargneuse, nous n'avons pas l'Europe frileuse. L'Europe nous a donné nos racines. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'elle nous donne des ailes. Ce qu'ils veulent, c'est se protéger de l'Europe. Ce que nous voulons, c'est que l'Europe nous protège. Ils sont des Européens fatigués, nous sommes des Européens impatients.
Malgré tout, Nathalie Loiseau a un peu de mal à galvaniser la foule, même si les militants veulent lui reconnaître ses qualités.
Elle est quand même connue à l'Europe, et connue dans le domaine de l'Europe, donc j'ai aucun souci en la matière.
Elle peut augmenter le score de la République en marche, qui est déjà en tête de sondage.
Ça fait 2 ans qu'elle arpente les couloirs bruxellois, donc ça c'est un point d'atout important.
Il faut qu'elle aille voir un orthophoniste pour se donner un peu plus de voix. Mais c'est le seul défaut que je lui vois.
Mais à l'applaudimètre, c'est clairement son numéro 2, l'écologiste Pascal Canfin, qui l'emporte, plus à l'aise au micro, plus fédérateur chez les jeunes, plus naturel aussi quand il salue la foule et applaudit. Là où on sent Nathalie Loiseau encore un peu gênée, presque étonnée d'être là où elle est.
Rosalie Lafarge, un grand ciel bleu presque partout aujourd'hui, des températures douces comprises entre 11 et 16 degrés.